This is CKCU Literary News, les actualités littéraires dans le monde francophone.
Voici de Montréal.
Une émission consacrée à la nouvelle littérature québécoise, fiction, poésie et essais, une coproduction du webzine La Recrue du Mois.
Et de CKCU Literary News, réalisée par
Lucie Renaud
et Hanska Auger-Ruprecht.
Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette émission des actualités littéraires sur CKCU. Lucie Renaud à l'appareil. Je m'entretiens aujourd'hui avec Simon Lanqueteau pour son premier livre « Tout foutre en l'air », sous-titré « Carnet d'un jeune prof », publié chez Amac Carnet. Bonjour Simon Lanqueteau.
Bonjour Lucie.
Alors je serais tentée de commencer ça en citant en fait l'auteur qui articule ou en fait qui justifie son travail ici et qui dit « Même ce journal que je tiens, il ne m'aide pas tant que ça ». Comme je l'ai déjà dit, j'avais pour projet de m'en servir comme soupape, de l'utiliser pour moins chialer au collège, mais je m'aperçois que par moment, quand je consigne ce qui m'a énervé pendant la journée, ça m'énerve davantage. Ça ne m'aide pas à décrocher, au contraire, ça me fait pomper. Alors, est-ce qu'on s'est fait prendre à son propre jeu en amorçant ces carnets-là?
J'irai pas jusqu'à ce point-là parce que, bon, ces carnets-là, j'ai commencé à les tenir dans l'idée justement de m'en servir comme exutoire et surtout de moins chialer parce que j'avais tout le temps l'air bête quand j'étais au collège puis j'étais tout le temps en train de me plaindre, ce qui est pas agréable pour les collègues. Mais je me suis fait prendre à mon jeu dans le sens où, effectivement, ça a pas été juste un exutoire. Parfois, c'était aussi frustrant, mais ce que ça m'a permis, par exemple, c'est mettre des mots sur les bobos, plus précis, d'avoir une pensée plus exacte de ce qui m'énervait, etc. En plus d'avoir le projet, que ça soit devenu maintenant un livre, là, que ça soit intéressant. Et puis en plus, il y a eu l'autre visée, la visée du retour sur la pratique pédagogique, c'est-à-dire que il y a des choses que je me disais, oh mon Dieu, j'avais fait ça à la dernière session, faut pas que je le refasse, etc. Donc, il y a eu plein de choses positives là-dedans, mais celle de me calmer les nerfs, pas nécessairement. Puis là, je vous dirais qu'on est à peu près, Tout foutre en l'air couvre 2011. Mmh. On est une bonne année et demie, pour ne pas dire 2 ans plus loin. Puis je pensais que ce livre-là allait m'aider à savoir est-ce que je reste prof ou qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grand, parce qu'il y a trop de choses qui m'énervent dans le système. Je dois avouer qu'on est 2 ans plus tard, le livre a été retravaillé, il a été publié, puis je suis plus encore en questionnement que je l'étais pendant la rédaction, c'est-à-dire je suis toujours pas certain que je veux rester prof. Donc oui, il y a un peu cette dynamique-là, un peu pris à mon jeu, mais quand même ça a aidé.
Tout à fait, comme on le mentionne ici, enseigner j'aime ça, c'est l'école qui me tue.
Ah oui, oui.
Est-ce que aujourd'hui, en 2013, enseigner la littérature, c'est encore possible?
Mais oui, c'est encore possible, puis c'est surtout encore nécessaire, mais c'est peut-être, il y a quelque chose de personnel là-dedans, là. C'est peut-être moi aussi qui aime pas trop me sentir enchaîné, qui a de la misère avec trop de contraintes. J'ai plein de mes collègues qui sont heureux que ça fait 30 ans qu'ils enseignent, qui enseignent la littérature avec autant de passion qu'au premier jour. Donc oui, c'est possible. Moi, personnellement, est-ce que j'ai la maturité pour passer par-dessus les contraintes, la maturité, la sagesse, le calme pour le faire? C'est plutôt ça que je remets en question. C'est-à-dire que j'adore encore parler de littérature. On a discuté un peu avant l'entrevue, on parlait déjà dans les livres, puis les œuvres qui me passionnent, puis ça demeure. Et cette session, je donne le cours 101 qui, à mon collège, c'est la littérature classique, donc du Moyen-Âge jusqu'à 1850. C'est ma période, enseigner Molière, enseigner Shakespeare, enseigner Corneille, puis Racine. J'adore. Puis je réussis même, je pense, à transmettre ça auprès de certains étudiants. J'ai encore eu cette session des Andromaques, j'ai trouvé ça bon.
Mm-hmm, ce qui est quand même pas mal. Il faut faire un effort là-dessus. Là.
C'est ça. Cependant, ma matière, le plan cadre que le ministère m'impose, le plan cadre, c'est les devis, etc., c'est la paperasse bureaucratique en arrière. En réalité, il n'y a pas de littérature dans nos cours. Le premier cours, on doit apprendre à l'étudiant à faire une analyse littéraire et le contenu littéraire est laissé au propre à chaque cégep. Et puis, il n'y a aucune connaissance. Évidemment, il ne faudrait surtout pas que les étudiants aient des connaissances. Ça serait vraiment mal vu dans cette époque d'approche par compétences. Et puis, on se retrouve avec des horreurs, comme dans le plan cadre de nos cours, la compétence principale, c'est apprécier la littérature québécoise. Je sais pas comment je fais, moi, pour, après 60 heures de cours, évaluer à quel point mon étudiant est en mesure d'apprécier la littérature québécoise. Tout au plus a-t-il lu 3 œuvres, s'il les a bel et bien lues.
Tout à fait.
Au complet, par exemple. Et puis là, moi, faut que j'évalue ça. Donc, c'est du jargon pédagogique, c'est de la langue de bois, ce qui, moi, en partant, me donne de l'urticaire. Mais en plus, c'est que c'est comme si on enseignait la littérature malgré les programmes.
Mm-hmm.
C'est un peu ça que j'ai l'impression de faire, c'est-à-dire qu'il faut apprendre aux étudiants à réussir l'épreuve uniforme de français. 101, 102, 103, le but c'est l'épreuve, c'est de rédiger un texte de 700, 800 ou 900 mots selon le cours, et puis de respecter la grille que ce que le ministère a décidé qui était un texte bien écrit. Et si on regarde pas mal tout ce qui est structure administrative depuis quelques années, ben un texte bien écrit, c'est pas un texte qui a quelque chose à dire, mais c'est un texte qui utilise bien le premièrement, deuxièmement, troisièmement.
Ça, il faut faire une belle introduction et une conclusion et oui. Souligner cela à grands traits.
Oui, oui. Donc, puis là, je sais que je simplifie en le disant, puis que même chez les correcteurs du ministère, il y a des gens pleins de bonnes intentions qui ont pour but de vraiment aider les gens. C'est qu'on est tout le temps pogné aussi, on est tout le temps pris là-dedans, dans l'éducation, c'est-à-dire dans ce... Oui, des gens pleins de bonnes intentions, mais on sait que l'enfer en est pavé aussi. Puis si ces gens-là, pleins de bonnes intentions, sont des pédagogues, malheureusement, j'ai le préjugé de dire que leur profession favorise le contenu plutôt que le contenant. Alors, ils formalisent nos enseignements. Et puis, à travers ça, ben nous, on n'est même plus des spécialistes. Oh. Et puis, est-ce que c'est vraiment important qu'un professeur de cégep ait une maîtrise ou un doctorat? Le Conseil du Trésor, il n'y a pas un mois, nous a ni plus ni moins dit ça. C'est-à-dire, on vous reconnaîtra pas ça. On va vous grader sur le plan salarial, comme les professeurs de primaire, secondaire, parce que de toute façon, nous, on met pas de plaster et eux en mettent. Donc, ils méritent un salaire plus grand. Bon, là, j'ironise avec tout ça. J'ai beaucoup de difficultés à rester neutre et calme là-dedans. Ce que je trouve, par exemple, c'est que le savoir là-dedans est parti. Moi, j'aimerais pouvoir enseigner la littérature pour le plaisir de la littérature. Je sais qu'il n'y a pas que ça. Il faut aussi enseigner le bon français. Je suis d'accord, puis ça va. Mais je suis tanné de devoir tout justifier. Je me fais demander par les étudiants, ce matin même. Donc, la dernière partie de mon cours, c'est un exposé d'histoire littéraire. Monsieur, ça sert à quoi, l'histoire littéraire? Ben, ça sert à rien. C'est pour ça que c'est important. Ça, c'est Jean Larose qui m'avait déjà dit ça en réponse, que j'avais bien aimé. Évidemment, il faut que j'explique un peu aux étudiants pourquoi ce qui sert à rien est plus important que le reste. Et je leur dis, l'amour, ça sert à rien.
Mm.
Mais oui, ça sert à quelque chose. Non, pas pour la reproduction de la race. Et pourtant, il est plus important que les autres choses qui sont utiles. Ça m'énerve que la littérature soit utile. Ça n'est pas utile, la littérature. Il ne faut pas que ça le soit. On n'écrit pas une œuvre pour faire des thèses, on n'écrit pas une œuvre pour avoir un but dans la société. Puis c'est un peu la même chose avec l'histoire littéraire. C'est sûr que j'ai quand même fini de leur dire « Ah, ça va vous permettre de faire un sujet amené pour votre dissertation finale. » Donc là, comme ça, ils m'écoutent plus. Et c'est à ce moment-là que le livre de génie mécanique s'est fermé pendant mon exposé. Mais cela étant dit, il faut avoir ces cours d'histoire littéraire-là, bon, pour, dans ce cas-ci, comprendre le 18e siècle, pour pouvoir mieux analyser le roman qu'on est en train de lire, c'est-à-dire Jacques le Fatalisme. Mais au-delà de ça, les élèves ont 5 cours d'histoire au secondaire pendant 5 ans. Puis je me suis déjà fait dire, dans un cours quand j'enseigne le 104, qui chez nous est littérature contemporaine, puis moi, cette session-là, j'avais abordé littérature amérindienne, parce que je trouve qu'on n'en parle pas, et puis on néglige beaucoup cette part de qui on est. Et puis les étudiants m'ont dit, on a fait 5 ans d'histoire au secondaire, à chaque année on a parlé des Amérindiens et ils apprenaient au cégep toute l'histoire des pensionnats.
Mmh. Il est un peu tard là quand même.
Bon, peut-être que secondaire 1 c'est trop tôt pour apprendre oui. Ces horreurs-là, mais ce que je veux dire c'est que, donc il y a beaucoup de cours d'histoire, je dis pas encore une fois que les profs font pas leur job, parce que c'est pas toujours une question de ça, mais il y a encore une grosse lacune là sur le plan historique. Donc moi aujourd'hui que j'ai donné quoi... 1h15 de présentation sur le 18e. On s'entend que c'est faut tourner les coins ronds pour faire un siècle au complet en 1h15. Puis je vous passe les périodes où il faut que je fasse 2-3 siècles en 1 heure.
Oui, c'est ça.
Mais si j'aimerais ça pouvoir leur enseigner ça, que ça demeure important, sans qu'il y ait juste l'évaluation au bout ou la compétence à avoir, on peut-tu avoir aussi du plaisir, la connaissance, la littérature? C'est le fun!
Ça devrait, en fait, oui. N'est-ce pas? Alors, Diderot, aujourd'hui, en 2013, pour les jeunes de 18-19 ans, comment réagissent-ils à cela? On s'entend que c'est des années-lumière hors de leur zone de confort, là, quand même.
Bon, mais moi, d'abord, mon but, c'est certainement pas de les laisser dans leur zone de confort. Ils sont très bien capables d'y rester sans moi. Ça, c'est majeur. Puis quand je donne le cours de littérature contemporaine, personnellement, c'est pas moi qui vais mettre Patrick Sénécal. Pas parce que c'est bon ou pas bon, c'est qu'ils le lisent déjà. Pourquoi ils auraient besoin d'un prof pour leur faire lire ce qu'ils lisent déjà?
Mm-hmm.
Cela étant dit. Donc, moi, j'ai aucun problème. Molière, Racine, Corneille, puis ça, c'est le fun. Diderot. Moi, j'adore ce personnage absolument fantasque, cet auteur fou avec une grande liberté. Et puis, bon, moi, c'est un roman qui m'a toujours marqué, Jacques le Fataliste. Parce que ça a fondé le roman moderne par le narrateur. Il nous présente un narrateur qui intervient tout le temps dans sa narration, qui interpelle le lecteur, qui insulte le lecteur parfois. Le lecteur devient un personnage demandant des choses au narrateur. Cette idée de jeu entre la liberté du narrateur, parce que le narrateur se prend une super grande liberté, mais pour nous raconter l'histoire d'un personnage fataliste, c'est-à-dire qui croit que chaque chose est écrite là-haut, avec les problèmes de logique dans son argumentation. Donc c'est un gros jeu. C'est un livre qui est assez dur à lire. Depuis quelques sessions, je l'enseigne. J'essaye de peaufiner un peu les premières sessions. Je sais que les élèves ne finissaient pas. Il y avait beaucoup d'élèves qui avaient beaucoup de difficultés. Par contre, ceux qui allumaient d'aplomb, si je peux me permettre l'expression. Oui. Donc ça, c'est toujours motivant d'avoir un élève qui me dit « Ah, je l'ai relu. »
Quand même.
Je le croise une année après, puis il dit qu'il y avait des choses dans le roman qui n'étaient pas claires, puis que je suis resté sur ma faim. Je l'ai relu. Ah, mais là, c'est quand même un roman d'un bon 200, 300 pages. Et puis, qu'est-ce que ça a à dire? Ben moi, la réflexion que j'essaie de faire, bon, je pense pas que le fatalisme soit une doctrine si courante aujourd'hui. Les gens ne sont pas nécessairement fatalistes, mais je fais remarquer aux élèves qu'il y a plein de petites superstitions de notre quotidien qui nous laissent supposer que tout est déjà écrit là-haut, c'est-à-dire mm-hmm. Ça devait bien arriver aujourd'hui.
Ça comme un signe, il n'y a pas de hasard.
Heure était due, chaque ouais. torchon trouve sa guenille, toute l'idée des coups de foudre autant que des âmes sœurs.
Mm-hmm.
C'est toutes ces idées-là. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de superstitions, toute l'astrologie, c'est du fatalisme d'une certaine manière. Ça, c'est encore présent. Alors, je me dis, ben, je trouve intéressant de les questionner là-dessus. Vous êtes libres. Vous savez pas, il faut juste 17-18 ans. Et c'est drôle parce que je leur fais aussi faire une création littéraire sur le thème de la liberté. On a lu beaucoup de théâtre. Ça, c'est un roman qui a la forme du théâtre. Donc, mm-hmm. ils doivent m'écrire un dialogue ou un monologue, mais donc un texte dramatique sur la liberté. Et très souvent, leur premier réflexe, leur premier jet, c'est que si on n'est pas complètement libre, sans aucune entrave, alors à ce moment-là, on l'est pas du tout. Et là, c'est intéressant, je dois commencer à réfléchir un peu avec eux, leur faire remarquer, mais attention, là, même les oiseaux, ils ont de la gravité. C'est-à-dire que... Et là, c'est ça qui est intéressant, parce que ce qui se développe dans le roman, mais c'est un peu l'hypothèse que le là-haut du personnage Jacques, c'est comme un peu le narrateur. Donc, ça fait que si tu crois que ta vie est écrite là-haut, mais c'est comme il y a un dieu qui a tout écrit. Mais si le dieu est pareil au narrateur dans ce roman-là, j'en veux pas. J'en veux pas, c'est vraiment un être insupportable. Donc,
c'est peut-être pour ça qu'il y en a qui croient plus à la religion.
Peut-être. En tout cas, moi, c'est entre autres pour ça. Et donc, je trouve que c'est une matière à réflexion. C'est sûr que j'espère que les étudiants, en lisant ça, ont autant de plaisir que moi. Je m'illusionne, évidemment.
Oui, tout à fait. Je pense que ça serait quand même une grosse demande.
Mais si je suis capable de leur faire voir le plaisir là-dedans, ah ben là, j'aurais fait mon travail. Puis c'est ça qui m'irrite beaucoup. J'aimerais ça pouvoir avoir comme objectif de faire apprécier un texte et non de faire rédiger la dissertation. J'aimerais que la dissertation soit un moyen pour accéder à la littérature et non une fin en soi. Puis c'est ça qui m'étouffe dans le système scolaire. Mm-hmm. C'est une des choses qui m'étouffe.
Si on retourne quelques années en arrière et qu'on demande à Simon Langteau, l'élève au cégep, qui est en cours de littérature. Qu'en avait-il alors pensé?
Alors moi, j'étais pré-réforme, donc 4 fois 3 heures et non 4 heures. Moi, si je suis devenu professeur, c'est que j'ai eu des très bons profs de français et de littérature. J'ai des profs de secondaire dont je me souviens très, très, très bien vivement, dont le regretté Bruno Roy. Des gens qui m'ont fait découvrir les textes. Ça, j'ai des souvenirs très concrets. Au collégial, le cours dont je me souviens le plus, c'est que nous, à l'époque, on avait le droit d'avoir un cours de français théâtre où on monter un show. C'était pas seulement analyser du théâtre. Premier cours, on lisait les pièces. Deuxième cours, on l'a choisi. Troisième, les auditions. Ensuite, mise en scène, construction de décor avec représentation. Ça, c'est le cours qui m'a aidé le plus à m'épanouir. Mais je me souviens quand même d'autres lectures. Je me souviens d'une professeure que j'aimais pas beaucoup, qui nous a fait rire. Thérèse Desquiroux, que j'avais pas vraiment aimé, et Antigone Danouille, que j'avais détesté. Mais par contre, quand j'ai relu ces livres-là à l'université, oh! Là, je me suis aperçu qu'Antigone Danouille, c'est un chef-d'œuvre. Donc, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que moi, en plus, je suis entêté, je veux dire, je suis boqué, comme on dit en langue courante. C'est-à-dire, si on me force à lire quelque chose, j'aimerais généralement pas ça. Et puis ça, j'en parle dans Te foutre en l'air aussi. À un moment donné, je fais un remplacement d'une collègue, je suis obligé de lire les livres qu'elle a mis au programme, et je le lis comme un adolescent, moi-même, tout à fait. C'est-à-dire, je rechigne tout le long de ma lecture, juste parce que je suis obligé. Finalement, les romans étaient corrects. Mais donc, ça, c'est bien de le garder ça en tête. C'est pour ça aussi que dans mes cours, j'aime offrir des choix aux étudiants. Cette session, par exemple, j'offre 6 pièces de théâtre au début, j'en attribue une, ils font un oral de présentation, ils en choisissent une deuxième. Donc, je me dis un peu, ben, c'est vous qui l'avez choisi, c'est votre faute si c'est plate, c'est pas de la faute du prof, je leur dis à la blague. Donc, j'essaie de me mettre ça en tête aussi, puis c'est drôle, hein, mais j'ai des souvenirs assez précis de mes cours. Mais je pense que j'ai un rapport... Je remets en question mon choix de carrière, mais j'ai quand même un rapport naturel à l'éducation. Je me souviens aussi de choses assez précises de mes cours de maths puis de physique, puis c'est-à-dire que mes profs m'ont marqué. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai fait ce mauvais choix de devenir prof.
Donc, la transmission, c'est un geste essentiel pour vous, finalement.
Naturel. Naturel, oui, essentiel aussi. C'est drôle, je penserais pas à ce mot-là en premier. Dans le sens où je me dis, est-ce que je pourrais ne plus transmettre? Puis effectivement, je pourrais pas. c'est dans ma manière d'être, ça, oui. Puis ça vient de loin. Cependant, il va falloir que si je lâche l'enseignement, que je trouve une autre façon de transmettre, ça va venir naturellement. Mais oui, là, oui.
Est-ce que, en tant que professeur, des fois, il n'y a pas une frustration de, évidemment, ne plus disposer de temps à soi pour écrire, pour travailler à son propre projet d'écriture, que ce soit un roman, une nouvelle, peu importe? Est-ce qu'il n'y a pas, après un certain nombre d'années, ça finit par empoisonner?
Bien, je dirais même qu'après un certain nombre d'années, peut-être qu'on peut l'apprivoiser, au contraire, mais au début, c'est impossible. Les premières années d'enseignement, j'avais aucune place, là, je parle dans ma tête, pour écrire. Là, maintenant, ça dépend des sessions. En ce moment, je suis absolument pas capable. J'ai 4 groupes, et puis, question d'horaire. Mes cours sont le matin, donc quand je reviens de l'école, j'ai de la correction, de la préparation, je me remettrai pas dans mon livre. Peut-être si j'avais des cours d'après-midi, je pourrais peut-être faire une demi-heure tous les matins avant d'embarquer dans mes cours. Donc, il peut y avoir des logiques complexes, mais quand je regarde mes collègues, j'ai des collègues qui ont la discipline d'écrire vraiment beaucoup, mais il y a aussi certaines de ces collègues-là qui se prennent des allègements de tâches et des sessions sabbatiques pour pouvoir créer. Puis il y en a d'autres que je connais, mais qui ont des projets qu'il faut absolument qu'ils finissent. Les échéances sont là, on n'a plus le temps, j'ai pas d'énergie à cause de ma session, et je me mets de la pression supplémentaire parce que donc elles sont sur le point de craquer. Et tout ça, et c'est ça la plus grosse ironie, c'est que nous, professeurs au cégep, sommes payés 32h30 par semaine pendant 10 mois. Seulement 32h30 par semaine. Cette session, moi, je suis en train de calculer mes heures, là, essayer de voir dans quelle mesure. C'est sûr qu'au début de la session, on n'en fait pas 32,5. Là, je suis rendu avec la correction, j'étouffe. Mais je comprends pas. Si j'avais 32h30 chez Second Cup, là, il me semble qu'après, il me resterait du temps.
Oui, tout à fait. On ferme la porte et voilà, ça, c'est quelque chose sur lequel vous revenez, que ça envahit, ça se met dans n'importe quel interstice de votre vie, même en vacances, vous êtes en train de penser à vos plans de cours, vous êtes en train de visiter un endroit sans doute splendide, mais que
ça reste
toujours ça en arrière.
Ben, surtout, ben, un dimanche, ben, les étudiants s'en souviennent de ça, les étudiants savent qu'une fin de semaine, ça n'existe pas. Ben, les profs, on est dans ce mode-là, nous. Mais en plus, avec l'espèce de notion de base que je trouve assez horrible, que notre patron, OK, cette chose informe qui est notre patron, c'est-à-dire à la fois l'administration, le ministère, etc., table sur notre professionnalisme pour nous donner plus de jobs en sachant qu'on est payé juste pour tant d'heures. Je dirais même que mes collègues qui ont des enfants sont mieux placés que nous. Et puis moi, j'ai vu la différence entre quand mon copain qui vivait à l'étranger est aménagé à Montréal, donc maintenant, depuis un an, je me suis aperçu que c'est grave de travailler jusqu'à 10 heures le soir et de ne pas prendre de journée de congé. À un moment donné, j'étais en tâche de correction, puis il me dit, il dit en passant, ça fait 2 semaines, t'as pas pris un jour off. Je dis, ouais, mais j'ai de la correction. Il dit, oui, je sais bien, mais une journée par semaine, c'est pas un luxe. Le dimanche, on peut-tu faire quelque chose? Et là, j'ai réalisé quelque chose que je savais donc, mais je regardais autour de moi, mes collègues qui ont des enfants sont davantage capables de couper, ils n'ont pas le choix.
Ils n'ont pas le choix, il faut gérer le quotidien.
Ils n'ont pas plus de temps pour écrire des livres. Mais tous les autres collègues, les collègues célibataires ou sans enfants, se laissent manger à laine sur le dos sans aucun problème, et jamais il y a un cadre à l'école qui va venir nous dire « Non, mais là, je pense que tu travailles trop, tu remettras tes corrections plus tard. » Viens pas à la réunion, c'est pas grave. Mais non, évidemment que non. Ça arrive pas. Et puis, on table là-dessus. Et puis, poussons plus loin. La logique, pour me ménager, pour avoir de l'énergie, je devrais souhaiter que mes élèves abandonnent mon cours. Parce qu'ils m'en mettent. En ce moment, cette session-ci, en ce moment, on a eu le moyen au département de réduire la tâche. C'est-à-dire, j'avais 32 élèves par groupe au début de la session, donc 100-120. En ce moment, moi, j'ai eu beaucoup d'abandons cette session-ci. Là, je suis un peu déchiré. Quand j'ai vu la semaine passée que des élèves sont pas venus à l'analyse littéraire, là, la première qui comptait, je me suis dit, est-ce que je lui envoie un message pour me dire qu'est-ce qui se passe avec vous? Je suis inquiet, mon Dieu, parce que c'est évidemment les bons élèves qui viennent pas. Mais je me dis, si je prends mon énergie pour lui écrire ce courriel, qui est une belle chose, c'est un geste d'aide, mais si elle revient, il faut que je la corrige, sa correction, sa dissertation. Donc, pour moi, je suis mieux qu'il en ait plus qu'il abandonne. Mais c'est donc schizophrène comme logique. Ça, je trouve ça difficile. Puis en plus, on n'oublie pas le frais. Puis une autre chose schizophrène, puis c'est la schizophrénie du système qui m'énerve. On se déchire la chemise volontiers sur le dos au Québec dès que le français n'est plus respecté. Le recul, oh mon Dieu, l'eau pénible, oui. Recul du français à Montréal. Peut-être même le mettre la loi 101 au cégep. On fait un scandale parce qu'il est écrit pasteur dans un restaurant de pâtes. Mais par contre, les professeurs de français, les grands coupables du taux d'analphabétisme de 50%, ben on a des groupes de 37-38 étudiants, alors que dans la... Ça, c'est la formation générale, il y a ces quotas-là, mais dans la formation spécifique, le professeur de génie mécanique, lui, a un quota de 25.
Ouais,
moi, il faut que je leur apprenne à écrire, à penser et à lire, mais avec 37 élèves par classe, ou du moins des quotas assez gros comme ça. C'est horrible.
Mm-hmm. Est-ce que le professeur Langto donne trop de devoirs? Dans le fond, il devrait peut-être juste donner moins de devoirs pour avoir moins de corrections.
Le prof Langto essaye d'optimiser ses corrections, c'est-à-dire de trouver des moyens que les étudiants écrivent et travaillent sans que le prof aille à corriger. Donc ça, j'ai développé des stratégies, puis j'ai un de mes amis qui insiste beaucoup là-dessus, qui lui est prof à l'université, qui dit « Toi, t'es déjà appris, hein? C'est à eux de travailler, c'est pas à toi. » Mais par contre, le prof Langto, ben, il y a des standards, puis ça, c'est une autre chose que je vois en parlant avec mes collègues. Là, c'est mes standards qui sont à un certain niveau et le concret. Alors moi, idéalement, les étudiants feraient 3 dissertations pour bien maîtriser ça. Je suis pas capable d'en corriger 3, faut qu'il y en ait juste 2.
Mm-hmm.
Mais c'est en écrivant qu'on devient écriveron.
Oui, tout à fait.
C'est que je me dis, bon, mais tant pis. Mais c'est plate d'être obligé d'enseigner du tant pis.
Mm-hmm. Tout à fait.
Et puis, je trouve ça dommage. Puis, mais par contre, tout cela étant dit, le prof Langto donne quand même pas mal de job. Mais au moins, c'est le fun. Je me fais dire souvent, à la fin d'une session, quand je fais le retour, c'est... Monsieur, dans votre cours, on travaille fort, mais c'est quand même le fun.
Alors, c'est ce qu'on veut entendre à la fin d'une session.
Ben oui, je veux pas qu'ils travaillent pas. Je veux qu'il y ait du plaisir en travaillant. Je veux dire, je pense que ça prend un effort quand on est à l'école, mais l'effort est pas obligé d'être en opposition avec le ludique. On peut, oui, trouver ça le fun, puis rusher, puis bûcher. Par contre, quand je donne le 101, ben souvent le commentaire que j'ai, c'est que ça, après le 101 avec vous, ben le 102 passe bien.
Oui.
Parfait, c'est donc que je vous donne une bonne base. Puis c'est correct si vous avez travaillé trop fort, tant pis. Mais non, pas tant pis.
Alors finalement, le professeur Langto n'a pas envie encore de tout foutre en l'air.
Ah oui. Honnêtement, c'est ça le pire. C'est que cette session-ci, là, je me sens au bout du rouleau. J'ai manqué de motivation toute la session. Je me sens... oppressé, angoissé, je fais des choses que je ne fais jamais depuis longtemps, péter des crises de larmes pour rien à mon chum, de vouloir abandonner même en cours de session ce que je ferais pas. Non, c'est vraiment bizarre. Malgré la passion que vous sentez peut-être par rapport à la transmission et à l'enseignement que j'ai, c'est ce que je trouve le plus dur. Mon désir d'abandonner est plus grand maintenant qu'au moment de l'écriture du livre. C'est ça que je trouve dur.
Alors, il faudrait peut-être souhaiter à Simon Langto, l'auteur, que la prochaine fois qu'on le lise, ça soit en tant qu'auteur et non pas en tant que personne qui réfléchit sur l'enseignement.
Ben là, il y a 2 choix. Il y a un roman en cours, mais par contre, il y a aussi la suite des carnets parce que le fait est que j'ai maintenant besoin, quand je sors de classe, d'écrire ce que j'ai. Alors, j'ai à peu près 700 pages pour 2012-2013.
Alors, au plaisir de vous relire.
Certainement, au plaisir de se rencontrer de nouveau.
De CKCU FM 93,1, la radio de Carleton University à Ottawa, Canada, c'était Les actualités littéraires dans le monde francophone, une émission de CKCU Literary News, diffusée en continu et en différé, telle qu'indiqué sous CKCU Literary News dans Google. Nous sommes aussi sur Facebook et Twitter sous CKCU Lit News, en un seul mot. Merci et au plaisir de vous lire.